La Bible est le best-seller de toute l'humanité. 3,9 milliards d'exemplaires distribués depuis 1815. Loin devant le petit livre de Mao, 900 millions d'exemplaires, et devant le catalogue Ikea, 220 millions d'exemplaires. Elle a été traduite en 2303 langues. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de langues que ça sur la Terre. La Bible a imprégné notre culture, elle a marqué notre art, elle a marqué notre histoire, elle a marqué nos lois. Et son influence est telle qu'on parle même de la Bible du bricoleur ou de la Bible du mécanicien. Pour certains, la Bible est le livre le plus important. Par exemple, Desmond Duke Ellington a dit ceci: « J'ai eu trois éducations, la rue, l'école, la Bible. C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique livre que nous devrions posséder. » Blaise Pascal, ce philosophe français, disait: « Sans l'écriture, qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. » Un livre d'une importance extraordinaire pour d'autres, pour certains, mais pour d'autres, la Bible est très attaquée. Est-ce qu'elle contient le rapport exact des faits? Est-elle transmise avec fidélité? Ces attaques viennent d'un peu partout, elles peuvent venir de films, par exemple le Da Vinci Code, elles peuvent venir du monde académique, des religions non chrétiennes, et même de mouvements à l'intérieur de la religion chrétienne. Elle est tellement attaquée qu'on en arriverait presque à dire que la Bible n'est pas parole d'évangile. Mais la question de la fiabilité de la Bible est d'une importance capitale. En effet, son message est fort et les sujets qu'elle aborde sont les plus importants de la vie. Dieu, l'origine de l'humanité, la mort, l'au-delà, notre condition humaine, la rébellion de l'humanité avec Dieu et la solution apportée par Dieu. Donc son enseignement ne touche pas seulement l'intellect, mais il appelle une orientation de vie. Donc si la Bible est fiable, les conséquences ne seront pas qu'intellectuelles, mais doivent entraîner un changement aussi dans notre manière de vivre. Cette question a donc toute son importance pour nous aussi, aujourd'hui. Alors ce que je vous propose de faire pour affirmer la fiabilité de la Bible, de procéder en deux étapes. D'abord de se dire, est-ce qu'elle a été bien transmise? Ça veut dire, est-ce que la Bible comme l'on a aujourd'hui est bien celle qui était écrite à l'origine? Et la deuxième étape, ce sera d'essayer de vérifier, est-ce que ce qui a été écrit à la base était juste? Donc, au niveau de la transmission, pour l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible, le plus vieux manuscrit écrit en hébreu qui contient tout l'Ancien Testament, date du Xe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est très récent. Donc ce n'est pas très vieux, mais il ne faut pas s'inquiéter pour cela, car nous avons d'autres manuscrits plus anciens qui contiennent certains passages seulement. Nous avons aussi des traductions, donc des textes bien plus anciens qui ne sont pas écrits en hébreu, mais qui ont été traduits. Et ce qui est formidable, c'est qu'en 1947, nous avons découvert ce qui s'appelle les manuscrits de la Mer Morte, qui remonte à une période située entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère. Donc, en découvrant ces manuscrits de l'Ancien Testament, nous avons fait un bond de 1000 ans en arrière, au minimum 1000 ans en arrière, et nous avons pu constater que les manuscrits que l'on avait du 10e siècle eh bien, correspondaient bien à ces manuscrits qui datent de 1000 ans auparavant. Donc, cela a pu nous rassurer sur la transmission du texte hébreu. Par rapport au texte du Nouveau Testament, donc de la deuxième partie de la Bible, il faut savoir que nous avons d'excellentes raisons de montrer que le texte a été très bien transmis. Déjà, au niveau des copies, des premières copies, donc même des originaux finalement, ils ont été écrits très rapidement avant les faits, après les faits. Il faut déjà remarquez ça, à peu près 45 ans jusqu'à 100 ans après les faits ont été rédigés tous les textes. Donc c'est une rédaction très ancienne. Nous avons aussi une importante quantité de ces manuscrits. Nous avons à peu près 6500 manuscrits en grec et encore 19 900 en d'autres langues. et qui est exceptionnel pour un texte de l'Antiquité. Par comparaison, l'Iliade d'Homère, qui contient le plus grand nombre de manuscrits, n'en possède que 643. Et pour la guerre des Gaules de Jules César, sur laquelle nous appuyons aussi pour construire notre histoire, nous n'avons que 9 ou 10 manuscrits de ce document. Et il faut aussi remarquer que les premières copies ne sont pas très éloignées de la première date de rédaction. C'est-à-dire que ce que l'on a retrouvé aujourd'hui, ce sont uniquement les copies. Nous n'avons pas les originaux. Mais les copies que nous avons retrouvées ne sont pas très éloignées des originaux. Je vous avais dit que les originaux étaient déjà écrits de l'an 45 à l'an 100, mais les premières copies que l'on a trouvées sont éloignées des originaux de 30 à 300 ans. Alors peut-être ça vous paraît beaucoup, mais c'était exceptionnel pour les livres de l'Antiquité. Par exemple, pour l'Iliade, il y a 500 ans d'écart entre la date de rédaction et les premières copies que l'on a trouvées. Et pour la guerre des Gaules, il y a 900 ans d'écart. Nous pouvons aussi, par rapport au Nouveau Testament, vérifier sa fiabilité dans la transmission par les citations qu'ont fait les premiers auteurs chrétiens. En fait, dans les deux premiers siècles, les responsables de l'Église ont fait énormément de citations du Nouveau Testament. Ils ont cité 32 000 fois le Nouveau Testament. Cela montre que, finalement, les premiers dirigeants citaient l'Ancien Testament avec une grande fiabilité. Si on arrive jusqu'au IVe siècle, si l'on peut suivre cette succession de citations, et l'on voit donc une très bonne fiabilité de ce texte. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on a retrouvé ces différentes copies sur différentes zones géographiques. Elles étaient aussi traduites dans plusieurs langues, et malgré toute cette diversité de langues et de zones géographiques, lorsqu'on les compare, il n'y a que de faibles différences, et lorsqu'on compare ces différences, elles sont souvent le fruit d'erreurs involontaires. Alors si nous rejetons la Bible parce que nous disons qu'elle n'a pas été bien transmise, alors nous sommes en fait obligés de rejeter l'ensemble des livres de l'Antiquité, parce que la Bible est le livre le mieux transmis de toute l'Antiquité. Maintenant vous allez me dire, c'est peut-être bien de savoir que ce livre a été bien transmis, mais est-ce que les faits écrits à la base sont fiables? Alors pour cela, il faut regarder plusieurs choses. On peut déjà souligner la cohérence interne. Il y a 45 écrivains sur la Bible, de toute classe sociale. La rédaction s'est effectuée sur 16 siècles, et pourtant, une très grande cohérence du message, du début à la fin. Nous pouvons voir aussi un certain réalisme dans ce qu'exprime la Bible sur la nature humaine, sur les besoins de l'homme. Jean-Jacques Rousseau a écrit « Je dois vous confesser que la majesté des Écritures m'éblouit, la sainteté des Évangiles parle à mon cœur, il y a des traits si frappants de vérité, et est en plus si parfaitement inimitable que si elle a été l'invention des hommes, les inventeurs seraient plus grands que les plus grands héros. » Nous pouvons voir aussi l'honnêteté avec laquelle la Bible aborde certains sujets qui parfois pourtant semblent entrer en contradiction avec une idée simpliste de la théologie qui se dégage de la Bible. Par exemple, ce sera le thème de demain, comment un Dieu bon peut-il permettre la souffrance, et même la souffrance d'injuste? Eh bien, nous voyons que la Bible aborde ces sujets avec une très grande honnêteté. Elle n'essaye pas de les escamoter. Nous pourrions aussi relever que des auteurs non-croyants ont confirmé des faits que l'on trouve dans la Bible. Il y a toute une série d'exemples, mais nous n'allons pas nous arrêter là-dessus. Je dirais que ce qui est important aussi de remarquer, c'est que la Bible contient un certain nombre de détails historiques qui ont été confirmés par la suite. Par exemple, nous trouvons dans une des lettres du Nouveau Testament que l'auteur écrit que Éraste était trésorier de la ville de Corinthe. Et donc, pendant longtemps, on s'est dit, est-ce que ce fait-là est juste? Mais en 1929, on a trouvé une dalle portant l'inscription Erastus, curateur des travaux publics, a posé ce dallage à ses propres frais. Donc 20 siècles après, on a découvert que finalement un petit détail historique que mentionnait la Bible était vrai. Pendant 20 siècles, on l'avait ignoré, mais 20 siècles après, cela a confirmé. Alors je dirais aussi que le style de la Bible est très différent du style d'autres mythes. Par exemple, elle mentionne des dates, elle mentionne des lieux, elle cite des généalogies, comme pour situer le texte biblique à l'intérieur d'une histoire. Par exemple, le credo chrétien dit que Jésus-Christ a été crucifié sous Ponce Pilate. Le credo chrétien contient le nom d'un gouverneur romain. C'est pour dire combien, finalement, l'histoire qui nous est racontée dans la Bible s'inscrit dans l'histoire que nous pouvons lire dans d'autres livres d'histoire. Et pour les évangiles, il y a encore plus. Donc les évangiles, ce sont les quatre biographies de Jésus. Nous avons encore plus d'éléments de pensée qu'ils n'ont pas été inventés parce qu'ils contiennent des éléments qu'une personne qui aurait voulu inventer le récit aurait enlevé. Par exemple, elle mentionne la faiblesse des disciples. À un moment donné, ils ont refusé de croire. Pierre a renié Jésus-Christ. Si vraiment c'était un événement inventé par les disciples, est-ce que vraiment ils auraient intégré ces détails? Nous pouvons aussi mentionner que les disciples parlaient d'une résurrection corporelle de Jésus-Christ. Vous imaginez si ce n'était pas vrai? C'est une folie de dire que Jésus est ressuscité corporellement. Si ce n'est pas vrai, ils auraient simplement pu dire que Jésus est ressuscité spirituellement. Et ça, personne n'aurait pu le vérifier. Mais s'ils ont pris le risque d'écrire que Jésus était ressuscité corporellement, c'est parce qu'ils en étaient parfaitement convaincus qu'ils l'avaient vu. Si c'était un récit inventé, nous ne trouverions pas des choses aussi grosses que cela. Et surtout, pourquoi je dis que les évangiles ne sont pas un récit inventé, c'est que les auteurs n'avaient aucun intérêt à inventer de telles histoires. Parce que ce message était impopulaire. Ils parlaient d'un Messie crucifié, donc un sauveur qui meurt de la pire des manières. Ils parlaient de la résurrection des corps, alors que pour les Grecs, le corps est la prison de l'âme. Quel intérêt de ressusciter corporellement si c'est pour retourner dans une enveloppe qui nous enferme? Et en même temps, ce message prenait à se détacher du culte de l'État, ce qui était très dangereux pour l'époque. Beaucoup des premiers chrétiens sont morts martyrs. Il y a même Blaise Pascal qui dit « Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui meurent pour une histoire détiennent une histoire vraie. Mais lorsqu'on est le témoin de cette histoire, là, il y a des raisons de le penser. Si je dois inventer une histoire qui me mène à la mort, je vais quand même réfléchir, est-ce que je vais maintenir ce mensonge jusqu'au bout? Surtout que parfois la mort, c'est d'être recouvert de poids et enflammé comme une torche vivante pendant que Néron défilait sur son char. Tout cela pour dire que les faits avaient une bonne crédibilité. Et je conclurai là au niveau des arguments, même si on pourra encore dire beaucoup, et peut-être dans le temps de questions, il y aura d'autres choses qui seront soulevées, mais si la Bible est fiable, alors finalement il est vital de connaître son contenu. Et finalement, la Bible est souvent un livre qu'on critique beaucoup, mais qu'on n'a jamais vu. C'est en lisant finalement que l'on peut se faire une idée sur la valeur de ce texte. Et là, je vous citerai juste, parce que mon temps est déjà fini, la personne de Fabrice Hadjadj. Donc Fabrice Hadjadj était athée, communiste, juif, et il a entrepris la lecture de la Bible pour démontrer que celle-ci n'avait aucune valeur. Et en lisant le texte biblique, il s'est finalement converti au christianisme. Goethe a dit « La beauté de la Bible grandit à mesure que nous grandissons dans sa compréhension. » Alors ce que je vous lance comme défi, c'est peut-être d'essayer de grandir dans cette compréhension de la Bible. Pourquoi pas à la sortie prendre ce petit fascicule « I love LA ». Pourquoi LA, c'est Luc, l'évangile de Luc, et Acte. Acte, c'est les débuts de l'Église. Donc c'est en fait le même auteur qui a écrit deux tomes, l'évangile de Luc et le livre des Actes. Donc vous pouvez le prendre à la fin et vous faire une idée par vous-même. Peut-être que comme Fabrice Hadjadj, je vous partais avec un a priori très négatif, mais en lisant, vous verrez que cela a un message qui peut vraiment être important. Merci.